Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque. Il y a autour de moi Madame Tari, pour les musulmans, de l'association Alif. Madame Berluki, responsable de la catéchèse à la paroisse Saint-Étienne en Drouais. Madame Matelet, qui est catholique et que nous connaissons bien dans cette émission Mosaïque. Et Monsieur Botvinnik, pour les juifs. L'été a été marqué par des événements douloureux, les massacres de Nice, l'assassinat du père Jacques Hamel. La réprobation a été unanime et a suscité une émotion, et en même temps la réaction d'un grand nombre qui se sont dit qu'il fallait favoriser ces rencontres interreligieuses, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir ici à Radio Grand Ciel, notamment dans cette émission. Et à contrario, soyons attentifs aussi à quelques bonnes nouvelles.
Alors, en ce qui concerne les musulmans, Madame Tari, vous nous rappeliez que...
Oui, que les trois communautés, donc la communauté juive, musulmane et chrétienne, se sont rassemblées autour d'un niftar, c'est-à-dire la rupture du jeûne qui avait lieu au mois de juin. Et donc, il me semblait important de partager cette information qui balaye un petit peu les préjugés.
Prévention qu'on a les uns vis-à-vis des autres.
Voilà.
Merci, Monsieur Botvinnik. Eh bien, au tableau des nouvelles.
Oui, de la même manière, au mois de juillet, entre le 12 et le 17 juillet, a eu lieu à Père-el-Monial, à l'invitation de Mgr Benoît Rivière, évêque d'Autun, une rencontre entre juifs et chrétiens sur le thème de la miséricorde, thème du jubilé de la miséricorde. Mais,
nous sommes encore dans ce jubilé.
Voilà, absolument, ça dure une année. Non. Donc, à la lumière de la tradition juive, pour mieux connaître le judaïsme tel qu'il se comprend lui-même aujourd'hui et la juste place du peuple juif dans l'histoire du salut.
Voilà, et bien aussi, alors ça c'est par rapport au climat, je vous lis l'article, des religieux et spirituels, bouddhistes, chrétiens, hindous, juifs, musulmans, sikhs, se sont adressés aux dirigeants politiques du monde entier en leur demandant de ratifier, de mettre en œuvre rapidement et de signer, bien sûr, l'accord de Paris adopté lors de la COP21 en plaidant, d'une part, pour la fin des énergies fossiles et une transition vers des énergies renouvelables et, d'autre part, en rappelant aussi les progrès nécessaires pour que les pays pauvres aient les ressources financières, donc augmentation des ressources financières afin d'aider les pays vulnérables à mieux se préparer aux aléas climatiques. Donc, eh bien, on perçoit que nos responsables religieux travaillent ensemble, et ça, c'est véritablement une bonne nouvelle. Alors maintenant, nous allons voir de façon plus concrète comment, dans nos différentes traditions religieuses, se fait la formation, comment se fait la transmission de la foi auprès des enfants. Eh bien, nous allons commencer avec Madame Berluki, qui est responsable pour la paroisse Saint-Étienne de la catéchèse. Alors.
Bonjour, je suis responsable de la catéchèse des enfants qui sont scolarisés, c'est-à-dire à partir de 8 ans et jusqu'en CM2, à la période de l'école primaire.
Donc avant, voilà. Effectivement, il peut y avoir une formation.
Alors, il y a un certain nombre de familles, effectivement, pratiquantes qui éduquent leurs enfants à la foi et à la prière. Il y a aussi de l'éveil à la foi qui est proposé dans la paroisse. Mais souvent, en catéchèse, on démarre avec des enfants qui ont très peu d'éducation religieuse chez eux. On a des familles, effectivement, pratiquantes. Et il y a des familles qui ont laissé la pratique religieuse, aller à la messe, pratiquer la prière chez soi. Ils n'ont pas forcément transmis la foi à leurs enfants. Mais ils en ont gardé quelque chose et ils souhaitent le faire transmettre au moins par d'autres. Et on a même des familles dont les enfants ont envie de faire cette découverte et qui, eux, ne sont pas du tout croyants. Ça arrive aussi. Ils ont des copains qui vont caté. Ou là, récemment, on a un petit garçon qui voulait se faire baptiser parce qu'en fait, il a eu une nounou qui était croyante et qui lui a parlé de Jésus. Donc voilà, ça lui a donné envie.
Ouais. Comment ça se passe pour les jeunes et pour les enfants, Madame Tari?
Eh bien, dans la religion musulmane, comme j'imagine dans toutes les religions, la transmission de la foi est très importante au sein du foyer. Dans la famille, c'est un devoir, c'est une obligation des parents de transmettre la foi et les piliers de l'islam. Les parents sont exhortés à maintes reprises, autant dans le Coran que dans la sunna du prophète, donc la tradition du prophète, par diverses paroles.
Alors comment
dans
ça se fait, par exemple?
Dans la famille, justement, on dit que ça se transmet par le père et par la mère, dans l'éducation de tous les jours, et ce, à partir du plus jeune âge. On n'attend pas qu'il ait l'âge de la raison, comme on peut dire l'âge de 7 ans. Non, c'est dès le berceau. Dès le berceau, on va entendre, dans les familles très pratiquantes, on va mettre du Coran. L'enfant va se familiariser avec le Coran. Dès la naissance de l'enfant, on va lui chuchoter dans l'oreille l'appel à la prière et l'attestation de foi. Donc, on n'attend pas qu'il ait une heure même. Le papa, aujourd'hui, c'est possible, ils sont présents dans la salle d'accouchement. Donc, dès qu'il a l'enfant dans les bras, c'est la première des choses qu'il fait. Et l'enfant doit être accoutumé à la foi musulmane, apprendre l'amour de Dieu, l'amour d'Allah, apprendre les formules quotidiennes quand on commence à manger, dire bismillah, quand on a fini de manger, alhamdulillah, donc différentes choses au quotidien.
Donc différentes périodes dans la journée. Oui. Alors maintenant, Monsieur Botvinny, pour les petits juifs.
C'est une obligation qui est organisée depuis le 1er siècle avant notre ère, sous le règne des Maccabées, avec une obligation d'avoir des écoles pour l'enseignement des enfants à partir de 5 ans. Auparavant, c'est la mère qui va lui chantonner des comptines qui vont s'imprimer évidemment dans la mémoire de l'enfant. Mais l'éducation religieuse proprement dite débute par l'enseignement de la lecture de l'hébreu à partir de 5 ans.
Ah oui?
Et on pense que les Hébreux savaient lire depuis au moins le 6e siècle avant notre ère, ce qui devait leur conférer sûrement une importance commerciale certaine.
Alors, Madame Berluki, le catéchisme, parlez-nous un peu de la manière dont ça se déroule.
Alors, la paroisse est assez grande, assez vaste, puisqu'elle va de Tréon jusqu'à Brouet, en passant par Chérisy, Vernouillet, Garnay. Donc, il y a 7 communautés, donc il y a des groupes dans chaque communauté.
Qui sont pris en charge
par des catéchistes, qui sont formés avant. Et puis, on essaye aussi de tenir, alors, en même temps, cette proximité et en même temps des rassemblements paroissiaux qui permettent aux enfants de voir qu'il n'y a pas qu'un petit groupe de 10 enfants.
Ils ne sont pas tout seuls.
Voilà, mais que ça peut être beaucoup plus large et on essaie de faire église un peu comme ça. Voilà. En première année, on invite les enfants et aussi les parents parce qu'on pense que c'est important de faire participer les parents aussi pour qu'ils puissent ensuite dialoguer avec leurs enfants. Enfin, c'est d'autant plus important pour ces familles dont on parlait tout à l'heure et qui ont décroché avec l'église. Donc voilà, ça leur permet de faire un cheminement aussi avec leur enfant.
Donc la catéchèse de l'enfant permet de raccrocher les parents.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à ces temps forts-là, il y a des temps communs, parents-enfants, en particulier une personne, Chantal Matelet, qui nous conte la Bible, et des grands personnages. Et pour cette partie-là, par exemple, les parents sont là aussi. Donc, ils peuvent entendre la Bible contée. Et ensuite, les enfants se retrouvent ensemble en atelier. Les parents se retrouvent aussi ensemble avec le Père Jean-Marie. Et puis, ils peuvent comme ça approfondir un petit peu un sujet ou un autre avec lui. Et ensuite, il y a un temps de célébration commun pour terminer ces rencontres-là.
Comment les parents réagissent?
Quand on a initié ça, on ne savait pas trop si les parents viendraient, parce que c'est des matinées qui durent 2h30. Et en fait, on s'est rendu compte que non seulement ils venaient assez nombreux, mais ils revenaient d'une fois sur l'autre. Donc, ils y trouvent quelque chose. Et,
donc, ça correspond et
je pense
à besoin.
Ils font vraiment, pour certains, un vrai chemin avec leur enfant. Quoi.
Et ensuite, comment s'articule la relation entre ce qui se fait au caté et dans la famille, dans les familles? Parce que le petit de 8 ans, on peut l'emmener au caté, ou on l'envoyait au caté.
Non, mais c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure des années de caté, ces temps-là sont de moins en moins fréquents. Quand ils sont adolescents, effectivement, les parents ne sont pas forcément présents. Non, non, à part quelques accompagnateurs.
Voilà le rôle des parents comme en tant qu'accompagnateur ou en tant que médiateur, d'une certaine manière, de leur foi. Et en islam, vous êtes un peu la même démarche?
C'est un petit peu la même démarche, oui. Jusqu'à l'âge de 5 ans, l'enfant, il est pris en charge par sa maman et son papa. Ensuite, bien souvent, quand les parents sont pratiquants, ils le mettent dans une institution. Souvent, c'est la mosquée qui joue ce rôle de la transmission de la foi. Donc ça se fait à la mosquée de 6 ans à 12, 13 ans, le début de l'adolescence. Là, dans la mosquée, on va lui enseigner les rudiments de la langue arabe.
Ce que j'allais poser comme question, parce que le Coran se lit en arabe.
En arabe, exactement. Donc il va avoir un enseignement élémentaire, hein, de savoir lire et écrire, hein. Pas autre chose, pas forcément la compréhension de ce qu'il va apprendre. Ça va être essentiellement du par cœur, hein, concernant les sourates du Coran. Et puis il va aussi apprendre la pratique de la prière, qui est obligatoire à partir de l'âge de 7 ans. Donc les parents doivent inciter leur enfant à partir de 7 ans, et donc la mosquée, elle est là aussi pour leur apprendre. Ils vont apprendre les gestes, les sourates, les formules, les expressions à dire, les ablutions, enfin tout le côté pratique à la mosquée. Les parents, eux, vont, pour les plus pratiquants, ils vont compléter cet enseignement à la maison et ils vont insister sur tout ce qui a été enseigné, prodigué à la mosquée. Ils vont le renforcer à la maison.
Puis pour le pratiquer peut-être.
De toute façon, l'enfant, dès son jeune âge, quand il est au sein d'une cellule familiale pratiquante, il va imiter de lui-même. Une petite fille va voir sa maman porter le foulard pour faire sa prière. D'emblée, elle ne sait pas à quoi ça correspond. Quand elle a 3 ans, 4 ans, mais elle va mettre un torchon ou ce qui lui tombe sous la main sur la tête et puis faire les gestes comme sa maman. Le petit garçon va imiter aussi le papa. Donc, au début, ça se fait beaucoup par mimétisme jusqu'à ce qu'il arrive dans un milieu où ce sera enseigné. Où donc, là, il accède à un autre niveau, à un niveau d'assimilation, puis ensuite de compréhension. C'est pour ça que les parents sont importants. Plus ils vont accoutumer l'enfant à certaines choses, à la pratique et aux formules, plus l'enfant il va les intégrer.
Il faut donner quand même l'exemple.
L'exemple est extrêmement important. Si un enfant ne voit pas ses parents prier, on va l'obliger à aller à la mosquée et puis à devoir faire la prière, il ne va pas vraiment comprendre. Il y aura un décalage entre ce qu'on veut de lui et ce qu'on fait à la maison. Donc il y aura un décalage.
Il y aura sûrement quelque part un abandon un peu plus tard.
Certainement.
Peut-être avant de reprendre d'ailleurs.
Pour certains, oui, pour les générations précédentes, c'est beaucoup arrivé. Il y en a beaucoup qui étaient obligés d'aller à la mosquée parce que bon, les parents quand même culturellement y tenaient, mais qui n'avaient pas forcément une pratique. Donc l'enfant arrivait à 13-14 ans, ne voulait plus aller à la mosquée, ne voulait plus de cet enseignement. Et c'est bien plus tard qu'il redécouvre la pratique religieuse parce qu'il l'aura assimilée, il l'aura comprise, il aura fait une recherche plutôt personnelle, qu'une incitation obligatoire de l'entourage familial.
Eh bien maintenant, Monsieur Bodvinic, vous nous rappelez pour les...
Oui, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais essayer de vous dégager le contenu de la tradition, de l'enseignement. C'est quelque chose qui passionne les foules, parce que chaque année, à l'annonce des lauréats du prix Nobel, on va trouver de nombreuses questions sur le fait que 20% des prix Nobel sont des Juifs depuis la création du prix Nobel, alors que les Juifs ne représentent qu'une infime partie de la population mondiale, 12 millions sur 7 milliards comptés en 2016. Alors ça va si loin, ce mystère, que ça a poussé des responsables académiques à se demander quel est le secret du peuple juif pour former de tels individus, quand même 20% des prix Nobel. Ainsi, fin 2014, la Corée du Sud a inscrit le Talmud au programme de l'éducation nationale. Ils pensent qu'un des secrets des Juifs, disons, de l'éducation, ça se situe dans le Talmud.
Tiens, ça c'est intéressant. C'est quelque chose qui me paraissait très important dans ce que vous nous avez déjà expliqué. Pour chaque génération, on reprend à frais nouveau la Torah. Il y a la Torah, mais il y a la lecture qui se fait pour nous à notre époque. Et ça, je trouve ça très intéressant.
Absolument. Si, en plus, on cherche à savoir quelle est l'essence du judaïsme, comment on va le trouver? Eh bien, le professeur Emmanuel Levinas a répondu qu'il fallait aller aux sources, aux livres anciens, oubliés. C'est-à-dire qu'il faut étudier finalement notre passé pour pouvoir bâtir notre présent et notre avenir.
D'accord.
Il faut non seulement instruire, mais également former. Il faut transmettre une éthique, et c'est là la particularité de l'éducation juive. Il faut des valeurs pour inscrire à l'enfant des notions nécessaires à la vie sociale, qui sont le respect, la bienveillance, l'ouverture à l'autre et la vérité, et donc de la morale. Pour le judaïsme, le royaume de Dieu ici-bas se confond avec le triomphe de la morale. Ici-bas, nous pensons que le royaume de Dieu est là, il n'est pas...
Le respect de la loi, effectivement.
On y apprend que la raison d'État, en plus, est la pire des impostures, qui ne peut conduire qu'à la ruine du monde. Et lorsque vous avez annoncé tout à l'heure de l'accord des religions pour essayer de faire signer les décisions de la COP21, on est exactement dans ce cadre-là. Et la terre d'Israël va vomir ses habitants, dit le prophète, quand les valeurs morales ne s'y sont plus sanctifiées.
Alors ça, c'est l'aspect théorique. Et comment le ressentent les personnes ?
Alors, si les personnes vont le ressentir selon leur degré de croyance, leur degré d'assimilation. Et naturellement, les gens qui pratiquent sont tout à fait minoritaires au sein des 12 millions d'individus juifs actuels. Et alors, chacun va le ressentir selon son degré de foi, de connaissance ou d'implication à vivre dans la société. Il y a des différences entre les gens qui vivent en Angleterre, les gens qui vivent en France, les gens qui vivent aux États-Unis, et en particulier au niveau de l'enseignement de l'école juive en France.
Eh bien, voilà. Madame Berlucchi, comment se fait aussi la formation pédagogique et comment cette éducation, cette transmission se pratique pour les plus grands, pour les adolescents ?
Les adolescents, on est plus... Dans de la pratique avec les enfants, il y a ce qui est célébration, prière, il y a ce qui est apprentissage du contenu, c'est-à-dire qu'on se base vraiment sur la Bible. On parlait tout à l'heure de la Bible comptée, mais il y a tout un tas de manières d'assimiler la Bible avec les enfants. Après, c'est comment on vit cette foi dans le quotidien, dans la vie de tous les jours.
Et ça, c'est vrai aussi pour les adolescents, pour les
voilà.
Jeunes.
Et plus ils sont grands, et plus c'est cet aspect-là peut-être qui prend le pas, ou ils vont faire plus des actions, mener des actions, etc. Voilà.
Donc, on couple cette formation avec des propositions d'actions, d'activités, de rencontres, j'imagine.
Oui, mais ils continuent aussi à étudier la Bible à l'aumônerie. Hein.
Donc, le travail sur la Bible aussi qui se poursuit. Vous avez peut-être à vous questionner mutuellement, non ? Parce qu'on perçoit quand même qu'il y a quelques...
Oui, quelques similitudes. On voit que les enfants sont aussi pareils, finalement, qu'ils soient chrétiens ou juifs, de ce que j'entends. C'est un petit peu la même chose. Les enfants sont demandeurs. Parfois, ce sont eux qui réclament. Et chez les petits musulmans, en tout cas de ce que je sais, ce sont eux aussi qui parfois réclament davantage. Donc, je reviens aux tout-petits. Des fois, ils vont demander des jeux parce qu'il y a de plus en plus d'outils pédagogiques, oui, ludiques qui se font aujourd'hui alors qu'ils n'existaient pas auparavant. Il y a une édition de la jeunesse concernant le culte musulman qui est aussi très développé. Donc, des livres, des bandes dessinées, des DVD, des CD. Donc, tout ça se développe. Et du coup, l'enfant, quand il voit chez ses amis, ben, il demande aussi au sein de sa famille. Donc ça, je suis revenue dessus parce que bon, ça m'est revenu. Mais pour les adolescents, chez les chrétiens, il y a l'école catholique privée. Chez les juifs aussi, il y a les écoles privées. Et chez les musulmans, ça se développe aussi de plus en plus. Depuis quelques années, on en est à une soixantaine, je crois, sur l'Hexagone. Et donc, à l'adolescence, les enfants, ils sont scolarisés dans ces écoles privées qui suivent, bien entendu, l'enseignement de l'éducation nationale, et ce qui auparavant leur était prodigué en dehors des heures de cours, c'est-à-dire le week-end ou le mercredi après-midi, là ça va être prodigué au sein même de l'école, quelques heures donc d'enseignement religieux.
Donc il y a le rôle de ces institutions
voilà,
éducatives.
Voilà, qui se développent et qui sont structurées et qui ont un enseignement de qualité parce qu'elles ont une pédagogie, ce qui n'était pas forcément le cas dans les mosquées.
Yeah. Et une connaissance.
Et une connaissance, bien entendu. Ça, c'est très important. C'est très important, oui.
Il y a des éditions spéciales dans le monde juif, aussi des éditions spéciales pour les jeunes ou des revues. J'imagine qu'il y a tout du matériel pédagogique qui est...
Oui, très certainement, mais je dois dire que je ne suis pas très, très calé là-dessus parce que...
Parce que vous n'êtes plus parent.
Parce que non, c'est...
Grand-parent.
Je suis, bien sûr, mais il faut passer par l'école juive. Et l'école juive en France a pris des proportions très très importantes puisque dans les chiffres que j'ai pu avoir sur une communauté estimée à 500 000 juifs il y a quelques années, On comptait en 70 que 3000 élèves qui allaient dans les écoles juives. Donc tous les autres enfants allaient dans les écoles.
Allaient au lycée du coin.
Je dois dire que personnellement, j'ai été pendant plusieurs années dans une des rares écoles juives qui existaient dans les années 50 à Paris. Mais c'était vraiment, il y en avait trois en tout et pour tout. Actuellement, avec la poussée de l'antisémitisme, les importations dans les écoles du conflit israélo-palestinien, comme vous le savez.
Les écoles juives ont augmenté
tout cet ensemble est bien décrit dans un livre que je vous recommande, dont c'est la troisième édition, qui s'appelle Les territoires perdus de la République. Mais en 2014, donc par comparaison, il y a plus de 40 000 élèves les écoles juives.
Donc c'est quelque chose de très important.
C'est quelque chose absolument, c'est faramineux. Il y a une fuite, si on peut dire, éperdue. Parmi ces 40 000 élèves, il y a très peu de religieux. C'est une sauvegarde pratiquement de la part des parents de la vie de leur enfant, tellement la peur est existante. Alors, qu'est-ce que fait l'école juive maintenant pour reprendre...
Ça pose...
Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, la plupart des écoles, et on en compte actuellement 282 en France, qui sont sous contrat avec l'État. C'est important que ça soit avec l'État. Donc, les programmes sont évidemment identiques à l'école publique, mais avec en général 2 heures d'enseignement des matières juives par jour, où on va en prendre l'hébreu, on va apprendre l'histoire juive, le rituel, les prières, les fêtes, l'apprentissage de la Torah et de ses commentaires. Donc on va jusqu'au bac, et au bac, avec la connaissance de l'hébreu, ça peut être utilisé comme une matière, comme une langue supplémentaire. Je pense que comme l'arabe,
oui,
c'est aussi
tout à fait
au bac
oui.
aussi. Hein.
Oui, il y a même l'arabe littéraire et l'arabe dialectal.
Et donc c'est un grand plus pour notre pays d'avoir des gens qui parlent des langues.
Donc, nous évoquions cette relation entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison, et on évoquait aussi le rôle des écoles juives. Donc, le nombre d'enfants s'est largement...
Formidablement augmenté.
Hein. Oui, largement augmenté. Alors, vous vouliez revenir sur...
Oui, sur justement cette grande différence que peuvent vivre les enfants entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe donc soit à la mosquée, soit même à l'école, et l'école laïque. Et Emmanuel Levinas enseignait déjà en 1955 que la marque particulière de l'école consiste à détruire dans l'âme de l'adolescent la fausse idée d'après laquelle le monde moderne, que représente pour lui la France, renie la civilisation millénaire juive, que juive ou musulmane ou chrétienne, que l'élève a connue chez lui. C'est-à-dire que nos écoles particulières essayent de démontrer que nos valeurs religieuses sont aussi les valeurs de la France.
C'est intéressant cette question, et peut-être pourrait-on en débattre davantage dans une prochaine émission, parce qu'il me semble que dans la loi scolaire et dans les lois de Jules Ferry, justement, un instituteur ne pouvait pas... alors là, j'évoque cette question mais de mémoire, mais le texte appuie cette assertion... aucun enseignement d'instituteur ne devait détruire ce qui pouvait être dit ou cru à la maison. Parce que la laïcité bien comprise, ça n'est certainement pas de désarticuler l'enseignement religieux, mais c'est peut-être de permettre que chacun respecte l'autre. Et c'est ça la base de l'enseignement laïque et de la laïcité basique, me semble-t-il. Et ça, dans le laïcisme qui s'érige comme... nouvelle religion, mais alors d'une religion encore plus, je dirais...
acerbée, peut-être.
Qui prend les couleurs de la bonne religion, en tout cas celle qui est donnée par l'État.
De la vérité.
Voilà, ça n'est pas du tout le respect, la tolérance, Absolument. Finalement, chacun doit pouvoir s'exprimer.
Enfin, à l'inverse, nos écoles religieuses doivent quand même véhiculer le message des valeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et aussi de la laïcité. Je veux dire que ça doit être réciproque.
Je pense que dans les deux...
Ça doit être réciproque, de façon à ne pas tomber dans un communautarisme éventuellement et de former des citoyens français.
Ça me paraît effectivement tout à fait un point important et au moment où de la rentrée,
absolument.
Alors que dans chaque famille, on se pose la question de l'éducation au lycée, au collège ou ailleurs, il y a aussi de l'éducation religieuse qui peut être donnée. Il me semble que laisser la place à l'expression de l'exposition de la foi des uns et des autres est une participation à l'éducation de tous. Et dans cette émission, nous n'avons pas pour objectif d'amener les gens à avoir telle ou telle profession de foi, mais à connaître nos religions respectives pour pouvoir mieux en parler et en tout cas éliminer les idées fausses ou les, disons, les préjugés que l'on a les uns vis-à-vis des autres. En tout cas, c'est l'objectif de cette émission.
Oui, tout à fait. Juste pour appuyer ce que disent les gens et ce que vous disiez à l'instant, les écoles musulmanes, pour la plupart, ne sont pas justement cantonnées à recevoir les petits musulmans ou les petites musulmanes. Elles sont ouvertes à tous. Et donc, tout parent qui souhaite inscrire son enfant dans cette école, il est tout à fait possible qu'il l'inscrive. Et c'est vrai que les valeurs de la République sont très importantes et elles sont enseignées dans le civisme. Et ces écoles-là ne se détachent pas, ne se mettent pas au banc de la République, tout au contraire. C'est pour
elles
former.
C'est le même programme, j'imagine.
Oui, puisque c'est l'éducation nationale, donc c'est le même programme.
Si elles sont sous contrat.
Et elles sont. Pour beaucoup, elles sont sous
contrat.
Donc, il y a des contrôles, il y a des inspections, et donc elles répondent aux exigences de l'éducation nationale. Et j'ai envie de dire que ces écoles, comme les écoles des trois confessions, elles ont pour objectif, j'imagine, de former de futurs citoyens, pas former de futurs religieux, parce que les religieux, ils pourraient tout à fait être formés dans des institutions spécialisées,
absolument.
Comme les mosquées ou les grands instituts,
comme le grand séminaire.
Voilà, où les instituts qui sont qui ont
pour objet. Il y a les lieux
objet.
Où on forme des gens qui veulent être religieux, et on a des lieux où on expose la foi de chacun.
De chacun,
pour
et puis
construire une société
voilà,
où,
tout à fait. Donc,
où on peut être différent les uns des autres.
De futurs citoyens bien dans leur peau, dans leur foi et dans leur république, j'ai envie de dire.
Chantal, pour l'enseignement chrétien catholique, c'est la même chose, j'imagine.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est la même chose. Il n'enseigne pas seulement, c'est pas un enseignement religieux. Hein, c'est la catéchèse est faite à l'intérieur. Il y a des heures où la catéchèse est faite dans l'établissement, hein, mais sinon les enfants sont éduqués comme tous les autres enfants des écoles publiques.
Hein. Même programme et simplement il y a une part accordée à l'enseignement de la religion. Et j'imagine si les parents et si les enfants le souhaitent.
Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant dans la formation des pédagogues, parce que je ne peux pas faire la comparaison avec les écoles laïques, c'est que les pédagogues, les instituteurs, sont formés non seulement à apprendre des choses, mais à savoir vivre, hein, dans l'école. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est une dimension, moi, je trouve, qui manquerait un petit peu dans certains établissements publics. Non seulement on est là pour apprendre, pour être enseigné, mais on est là parce que être un citoyen, c'est savoir vivre en tant que citoyen. Et je pense que ça, j'ai remarqué dans l'école chrétienne, catholique, ils font attention à ça. Les enseignants vont dans ce sens-là dans leur formation. Ça leur est proposé, un savoir vivre, un savoir être. Les uns vis-à-vis des autres, etc. Donc,
on peut quand même gager que les enseignants de l'école publique laïque et obligatoire ont
aussi... Non, le font. Ils ont sûrement ce souci, mais je me demande si on leur rappelle obligatoirement, je dirais. Voilà.
Eh bien, c'est débat sur l'éducation. On voit qu'à la rentrée, on est toujours très passionnés par ces questions, parce que ce sont nos enfants et aussi c'est l'avenir de la société. Et notre avenir à tous. Merci, et je dis aux auditeurs, bonne semaine à tous, au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir et bonne rentrée. Okay.
égalité et respect dans le monde entier. De mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer, main dans la main.